Bonsoir, vous êtes bien sur ND Chaîne, sur Radio Galère 88.4. Parfois, ce sont les garçons que l'on considère comme infiniment vulnérables et nécessitant des soins tout particuliers. D'autres fois, ce sont les filles. Dans certaines sociétés, c'est pour les filles que les parents doivent réunir une dot ou attirer le mari par des procédés magiques. Dans d'autres, le souci porte sur la difficulté de marier les garçons. Certains peuples estiment que les femmes sont trop faibles pour travailler hors du logis, d'autres, en revanche, les considèrent comme porteuses éminemment qualifiées de lourds fardeaux, parce que leur tête est plus solide que celle de l'homme. La périodicité de ses fonctions reproductrices a incité certains peuples à faire de la femme la source naturelle de pouvoirs magiques ou religieux, alors que d'autres y voient une véritable antinomie à ses pouvoirs. Certaines religions ont dévolu à la femme un rôle inférieur dans la hiérarchie religieuse, d'autres, au contraire, ont établi toutes leurs relations symboliques avec le monde surnaturel, sur l'imitation par l'homme des fonctions naturelles féminines. Dans certaines civilisations, les femmes sont tenues pour incapables de garder un secret. Dans d'autres, ce sont les hommes qui sont des bavards. Qu'il s'agisse de petites ou de grandes questions, de parures et cosmétiques ou de la place que l'homme occupe dans l'univers, on retrouve toujours la distinction revêtant des formes infiniment variées et souvent, grossièrement contradictoires, des rôles attribués respectivement aux hommes et aux femmes. Chaque adulte apparaît plus ou moins viril ou plus ou moins féminin, suivant les normes particulières à sa tribu.
ND Chaîne, bonsoir.
C'était un extrait de Margaret Mead, L'un et l'autre sexe, donc, qui a été écrit en 1949.
Et alors, on a pris la décision à ND Chaîne de s'attaquer à un type de domination spécifique, la domination masculine. La domination masculine établit un système de normes basé sur le sexe, mâle, femelle, et sur le genre, masculin, féminin. Et ce système de normes nous entrave. Il régit nos comportements, nos sexualités, nos apparences, nos pensées, nos perceptions. La division des êtres humains en deux catégories, hommes, femmes, et ses conséquences, nous a ouvert un champ théorique immense qu'on va essayer de prendre par un bout. On va essayer de commencer par une définition du genre, du sexe, et à quoi servent ces catégories. Bien sûr qu'on prend un peu, vu la taille du champ théorique qui s'ouvre, le risque de se planter, mais le pire, ça serait de pas en parler.
Alors on va commencer par s'intéresser brièvement à l'histoire occidentale de la représentation médicale du corps et au début de ce qu'on appelle la biologie du sexe. Au commencement, nous dit-on, était le A. En effet, au XVIe et XVIIe siècle, les différences de représentation anatomique entre hommes et femmes n'avaient rien d'essentiel. L'homme définissant à la fois l'homme et la femme, le neutre en quelque sorte, la femme étant donc une sorte d'homme imparfait. Les planches de Vézal, célèbre anatomiste de la Renaissance, faisaient de l'appareil reproducteur féminin un équivalent de l'appareil reproducteur masculin, un équivalent situé à l'intérieur où les ovaires tiennent le rôle de testicule et l'utérus le rôle du pénis, renvoyant à une sorte d'androgynie fondamentale. Cette vision unitaire de l'anatomie n'impliquait évidemment pas une égalité, mais au contraire, signifier que la différence de statut entre hommes et femmes trouve son origine non pas dans les structures corporelles, mais dans l'ordre divin. Avec les changements introduits par les Lumières, puis stabilisés par la Révolution française, on abandonne peu à peu cette vision pour construire scientifiquement le masculin et le féminin. La biologie vient au secours de la distinction de genre qui a été remise en cause par la déstabilisation d'une évidence métaphysique. Au cours du XVIIe, puis du XVIIIe siècle, la différenciation médicale s'opère sur la polarité entre des corps sains et des corps malsains. Au même titre que ceux des esclaves, les corps féminins sont globalement considérés comme malsains. en l'occurrence parce qu'ils sont sujets à davantage de pathologies considérées comme spécifiquement féminines, parmi lesquelles on trouve l'hystérie ou la nymphomanie. L'histoire de la pathologisation du corps des femmes est intimement liée à l'accaparement des savoirs médicaux par les hommes. Elle est aussi liée à l'essentialisation des caractères de la race, à celle de l'histoire de la pathologisation des intersexes, à celle des homosexuels et des prostituées. Mais nous reviendrons plus tard sur cette histoire de la médecine coloniale à l'occasion de la diffusion prochaine d'extraits d'une émission trans qui s'appelle Body Freaks, où Elsa Dorlin était invitée il y a quelques années à parler de son livre « La matrice de la race ». Ça, c'est donc pour une prochaine fois. À partir du milieu du XVIIIe siècle, petit à petit, les anatomies se sexualisent. On abandonne l'idée d'une symétrie des organes et la sexualisation n'épargne aucune structure anatomique. Elle implique aussi le squelette, le cerveau ou même la forme du crâne. Puis, au cours des progrès scientifiques, la quête de ce qui fait le sexe change petit à petit de niveau d'analyse. On passe de l'organe à la molécule en passant par la cellule. Au tournant du siècle, le sexe n'est plus seulement un sexe anatomique, mais est doublé d'un sexe invisible, un sexe physiologique interne. Les biologistes complètent la polarité entre ovaires et testicules avec une polarité de substances qu'on nomme respectivement mâle ou femelle. Les organes sexuels sont assimilés à des organes producteurs de substances chimiques, des glandes sexuelles. Cette théorie glandulaire du masculin et du féminin s'appuie sur un éventail d'expérimentations. Par exemple, l'injonction de gonades à des poulets castrés et donc la mise en évidence de leurs effets opposés. Les extraits de testicules entraînant une croissance de la crête alors que les bouillies d'ovaires entraînaient l'apparition d'un plumage femelle. L'existence de ces essais a constitué le socle de la première biologie du sexe. Agissant en permanence, les hormones fournissaient un mécanisme chimique qui expliquerait le lien entre des attributs extérieurs de la puissance, la grande taille, la posture autoritaire, la pilosité abondante ou la voix forte, et l'intimité des fonctions de reproduction. Les individus qui, par leur constitution corporelle, leur comportement ou leur attirance sexuelle, entraient mal dans ce cadre de la polarité masculin-féminin, étaient donc pathologiquement anormaux. Au XIXe siècle, l'homosexualité masculine devint une maladie que l'on expliquait par un défaut de masculinisation, une conséquence probable d'une déficience biologique, par exemple un défaut d'hormones mâles. Les homosexuels cessent d'être des dégénérés moraux pour devenir des dégénérés congénitaux, victimes malheureuses d'un malheur biologique, d'une erreur de la nature.
Alors, petit morceau. Dan Sylvestre.
Elle a raté la mayonnaise, on espère encore qu'elle se taise. Elle a 36 idées par heure, quand elle a pas le fou rire, elle pleure. D'un seul coup, elle est irascible, puis elle devient hypersensible. Elle dit que ça la tarabuste, et elle prétend que c'est injuste. Elle rouspète, elle ronchonne, elle peut plus supporter personne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est vers 12 ans que ça débarque, elle accepte plus les remarques. Elle désespère l'entourage, en tenue de ski sur la plage. On ne peut plus, et c'est un comble, la plaisanter du bout de l'ongle. C'est l'éternelle féminine qui fleurit en cette gamine. Elle était pourtant bien mignonne, ça y est, elle nous empoisonne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Quand c'est devenu la routine, qu'elle y a mis une sourdine, on se croit sorti de l'auberge, c'est alors qu'elle nous submerge de lait, de tétine, de couche. Ah non, il faut plus qu'on y touche, elle se prend pour un tabernacle, on devrait crier au miracle. Elle s'arrondit, elle ronronne, elle n'est jamais là quand on la sonne. C'est
c'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones, c'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Quand enfin plus rien ne s'oppose à ce qu'elle nous fasse une pause, n'espérez pas qu'elle se calme, on peut lui décerner la palme de la plus tranquille emmerdeuse. Elle dit qu'elle veut être heureuse, elle dépense, elle dilapide, elle devient extra lucide. Paraît que c'est la testostérone qui fait les vieilles amazones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Elle fait tourner le lait des vaches, tout ce qu'elle touche, elle le gâche. Elle est folle, elle est hystérique, comprend rien à la mécanique. D'ailleurs, c'est une pécheresse, elle peut même pas dire la messe. L'autorité, elle la sape, elle désespère même le pape. Et pourtant, elle se cramponne, elle manifeste, elle s'époumonne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est pourtant la moitié du monde, il a fallu qu'elle nous ponde, qu'elle nous abreuve, qu'elle nous torche, qu'elle nous dise qu'on n'est pas si moche, qu'elle nous attende pendant des heures, qu'elle nous console quand on pleure, qu'elle nous veille quand on est malade, qu'elle avale toutes nos salades. Si un jour elle nous abandonne, on trouvera la vie monotone. Vive les hormones, Simone, et vive les hormones, et vive les hormones, Simone, et vive les hormones, et vive les hormones, Simone, et vive les hormones, et vive les hormones, Simone, et vive les hormones.
Ouais, bonsoir, vous êtes toujours sur Run Nation, et donc dans cette émission sur le genre. Et donc c'était une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle « Vive les hormones », reconnu. Et donc on va continuer par une histoire du concept du genre, de genre. Et pour travailler là-dessus, je me suis pas mal appuyée sur un bouquin d'Elsa Dorlin qui s'appelle « Sexe, genre et sexualité ». Et notamment d'un chapitre qui s'appelle « L'archéologie du genre ». Et du coup, voilà, elle explique que le concept de genre a été élaboré par des médecins dans la première moitié du XXe siècle, donc en gros entre 1900-1950. Donc des médecins qui devaient prendre en charge, qui prenaient en charge des enfants intersexes. Alors, qu'est-ce que c'est un enfant intersexe ? Pour commencer, on peut dire que avant de les appeler intersexes, on parlait plutôt d'hermaphrodisme, mais que, alors on y reviendra sûrement parce qu'on parlera probablement plus précisément des intersexes dans une autre émission, mais les personnes intersexes préférant se faire appeler intersexes, on va continuer à utiliser ce terme. Donc un enfant intersexe, il y a environ 2%, pardon, des enfants qui naissent qui sont considérés comme intersexes. Et donc ce n'est pas un enfant, par exemple, dont le corps n'a pas de sexe ou qui n'est pas sexué. Donc c'est un enfant qui a un corps sexué. Mais c'est un enfant dont le processus de sexuation n'a pas bien fonctionné, en ce sens qu'il ne permet pas aux médecins, à la famille, etc., d'identifier une identité sexuelle qui serait mâle ou femelle. Donc on parle, en général, les médecins parlent d'ambiguïté sexuelle. Donc pour ces médecins au début du siècle, l'enjeu face à ces enfants n'était pas de leur attribuer, de leur assigner un sexe, mais de leur assigner le bon sexe. Donc le choix étant particulièrement limité entre mâle et femelle. Donc vous l'avez entendu là dans la première partie, on considérait que depuis le XVIIe siècle, il y avait déjà d'autres outils qui avaient été mis en place que, on va dire, l'aspect des anatomique des organes génitaux. Et donc on s'appuyait sur plusieurs trucs dont on vous a déjà parlé. Donc en dehors de ce sexe génital, on s'attachait à regarder les gonades, donc testicules ou ovaires. On regardait aussi les hormones, hormones dites féminines ou masculines, ou encore l'aspect génétique, les chromosomes XX ou XY. Mais on regardait aussi ce qu'on appelle la physiopathologie du comportement, donc en gros pour des raisons d'hormones comme l'illustre cette chanson d'Anne Sylvestre, ou de physiologie, latéralisation du cerveau, etc., les hommes seraient soit plus bagarreurs par exemple, ou les femmes seraient plus sensibles, plus lunatiques. Donc voilà, donc tout le long du 17e en gros jusqu'au début du 20e, c'est différents champs d'études, donc tempérament, gonades, hormones, chromosomes, ont été tour à tour ou parfois en même temps considérés comme des marqueurs de la distinction entre mâle et femelle. Donc au regard de ces critères, ces médecins, ils se heurtent quand même à une difficulté qu'on imagine un peu sérieuse, quoi. Ils ont en face d'eux un enfant qui a par exemple ce qu'on appelle un karyotype, donc les chromosomes XX ou XY. Donc si on prend un karyotype XX, donc plutôt femelle, mais que cet enfant présente un pénis apparemment normal, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait un homme, enfin un petit garçon, ou une petite fille? Bon, l'inverse, évidemment, avec un karyotype XY et un pénis anormal, ou voire même un clitoris. Donc, le médecin qui devait se retrouver à avoir à assigner un sexe, on peut imaginer au regard des croyances de l'époque que les médecins se disaient, bon, alors soit on va être confronté à un problème physique, ce qui arrive d'ailleurs, c'est-à-dire on va assigner à ce corps XY un sexe féminin, et d'un coup il va avoir à la puberté de la pilosité, ou inversement avec un karyotype XY, des seins qui poussent à la puberté. Donc il y avait ce problème éventuellement, enfin physique, hein, en fait une difficulté surtout sociale, ou même un truc un peu plus profond d'un être féminin, intérieurement féminin, ou d'un être intérieurement masculin qui serait enfermé dans un corps qui ne lui correspond pas, du coup. Donc voilà. Donc du coup, à partir de ces difficultés-là, ils ont commencé à élaborer ce concept de genre. Par la suite, donc en 1950, un médecin qui s'appelle John Money va affirmer, écrire, que le comportement sexuel ou l'orientation vers le sexe mâle ou femelle n'a pas de fondement inné. Par la suite, un psychiatre qui s'appelle Robert Stoller va populariser le terme de genre en se basant sur les travaux notamment de John Money. Et lui, il va proposer de distinguer le sexe biologique de l'identité sexuelle, identité sexuelle qu'il définit comme le fait de se percevoir homme ou femme et de se comporter en conséquence, y compris dans sa sexualité, c'est-à-dire que évidemment si on est homme, on est attiré par des femmes, et si on est femme, on est attiré par des hommes. Mais donc cette identité sexuelle ne serait pas dépendante du sexe biologique. Et pour ça, donc il se base donc sur des travaux de John Money, notamment sur une histoire qui est un peu connue d'un enfant qui s'appelait Bruce à la naissance et qui, à l'âge de 2 ans, a eu un accident de circoncision apparemment, et qui a fait qu'il n'avait plus de pénis fonctionnel. Et du coup, les parents de Bruce ayant sollicité John Money, celui-ci a suggéré à ses parents que la meilleure solution était de transformer du coup ce petit garçon en petite fille. Et ça va être la première fois dans l'histoire qu'on va réassigner un sexe à un enfant qui avait été à la naissance déclaré biologiquement normal, contrairement donc aux enfants intersexes qui sont considérés comme biologiquement anormaux en raison de ce qu'on considère comme une anomalie génitale. Du coup, cet enfant qui jusqu'à l'âge de 2 ans avait grandi comme étant un petit garçon va devenir une petite fille, on va lui créer un vagin, etc. Sachant qu'apparemment, c'est relativement simple, chirurgicalement parlant, de créer un vagin. Et du coup, devant le succès de cette réassignation, c'est-à-dire que ce petit garçon s'est finalement assez rapidement adapté à sa condition de petite fille, John Monet va tirer comme conclusion que l'identité sexuelle, pardon, de genre et de sexualité est quelque chose qu'on peut reconstruire, donc, puisque il avait reconstruit cette identité, ce petit garçon avait reconstruit son identité sexuelle. Et puisqu'elle peut être reconstruite, elle peut être construite, fatalement. Et donc, il va ainsi montrer que ce qu'on appelle le sexe biologique n'est pas seulement le résultat de cette sexuation des corps chromosomiques, etc. etc. Donc, et que, par conséquent, le sexe des individus, cette catégorisation des individus en mâle ou en femelle, est davantage le fait de facteurs, donc on dirait exogènes, c'est-à-dire en dehors de la génétique, qu'on pourrait donc éventuellement appeler culturel, même si ça peut être réducteur, que d'une détermination génétique. Et que ce même sexe, naturel ou assigné, n'a pas de causalité non plus sur le choix sexuel de ces personnes, l'orientation sexuelle de cette personne vers les hommes ou vers les femmes, l'attirance vers les hommes ou vers les femmes. Donc voilà, donc ça c'est la partie plus, on va dire, médicale, biologique de la notion de genre. Et cette notion de genre, elle va être les féministes vont se la réapproprier dans les années 70, notamment par la publication d'un ouvrage qui s'appelle Sex, Gender and Society, d'une sociologue britannique qui s'appelle Anne Oakley, donc Sexe, Genre et Société. Et donc, ouvrage donc, dans lequel elle distingue le sexe du genre et qui va marquer l'émergence du concept du genre dans la théorie féministe. Donc elle-même, elle s'appuie sur les travaux de Monet et Stroller pour baser cette différence entre sexe et genre. Et elle utilise donc ce terme de genre pour définir les identités, les rôles, toutes les tâches, les fonctions assignées aux hommes, aux femmes, les valeurs, les représentations ou les attributs symboliques. Et elle va les définir comme étant les produits d'une socialisation des individus et non plus comme les effets d'une nature. Donc le genre devient vraiment le sexe social qui est créé par la société. Donc ça va lui permettre de rompre avec cette relation de causalité qui était jusque-là communément admise, que les corps sexués ont la différence de corps entre les corps sexués est la cause des rapports sociaux inégaux entre les hommes et les femmes. Donc un des problèmes qui va être soulevé, une des critiques qui va être soulevée par rapport à cette théorie donc de différenciation de sexe et de genre, c'est que le genre est devenu dans ces années-là une explication, il revêtait tout ce que le social peut apporter dans la différenciation entre masculin et féminin, mais on continuait du coup à la faire reposer sur une différenciation de sexe qui était, toujours aussi immuable, indéniable et toujours aussi naturelle. Et du coup, je voulais vous donner à ce propos une citation, de Colette Guillaumin, dont on vous parlera un peu plus tard dans l'émission, qui parle donc de cette réassignation du sexe, des traits accordés par le sexe, du remplacement du terme de sexe par le terme de genre dans plein d'analyses. Et elle dit « L'introduction du genre dans les sciences humaines répond à une politique. Présenter les traits de genre comme symboliques ou arbitraires, en laissant au sexe anatomique le rôle de réel incontournable. » Les précédents de ce type d'opération, telle la tentative de remplacer le terme de race par ethnie, indiquent pour le moins leur ambiguïté. Donc je trouve que ça illustre assez bien à travers cet exemple du passage du terme de race au terme d'ethnie, à quel point en fait en socialisant, mais en remplaçant le mot, on continue à supposer que l'ancien terme, donc race ou sexe, est naturel et donc réel. Donc voilà, donc, et ça, ça va durer jusqu'à la fin des années 80, où, donc, prenant la mesure de cette critique, on va mettre en évidence peu à peu ce qu'on appelle l'historicité du sexe, c'est-à-dire l'invention d'un concept de sexe qui évolue en fonction des périodes, des années, des circonstances extérieures. Et on va affirmer qu'il n'existe pas de catégorie naturelle, telles que les catégories mâles et femelles, que nous ne ferions donc qu'enregistrer, identifier ou reconnaître dans leur application quotidienne. Et que donc ces catégories ne sont que des catégories sociales. À partir de cette fin des années 80, le genre ne va plus être pensé comme un contenu changeant, d'un contenant immuable que serait le sexe, donc un truc invariable, le sexe invariable et le genre changeant en fonction des sociétés, mais comme un concept critique, une catégorie d'analyse historique qui est, là je cite une personne qui s'appelle Eleni Varikas, qui engage une démarche délibérément agnostique qui suspend provisoirement ce que l'on savait déjà, le fait qu'il y a deux sexes. Donc elle dit en gros on part de comme si on ne savait plus rien et on dit qu'il n'y a pas forcément nécessairement, qu'on ne sait pas en tout cas qu'il y a deux sexes. Donc voilà, juste pour finir rapidement, ça c'était pour parler surtout du genre quand même dans les sciences humaines, enfin dans l'évolution de cette notion de genre, et cette non-naturalisation du genre et du sexe, enfin surtout du sexe en fait, il est appuyé par pas mal de travaux de biologistes, de neurobiologistes, de préhistoriens, etc., qui démontre que pas mal des attributs de corps, grands, petits, etc., sont plus liés à la place dominante des hommes dans la société, à la place de dominer des femmes dans cette même société, à leur accès inégal à la nourriture, autant qu'ils passent dehors ou pas, etc., qu'à une détermination génétique.
Yeah. mich erstmal selbst befreien. Und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich weiblich, weiblich.
Putain, je sais pas si... Alors, on va donc revenir un petit peu sur le sexe anatomique et sur cette histoire de la biologisation du sexe. Alors, au début du XXe siècle, un physiologiste, Charles Brown Séquard, s'injecte des extraits de testicules d'animaux afin de démontrer l'existence de sécrétions internes masculinisantes et proclama même avoir perçu personnellement le pouvoir rajeunissant et le gain de puissance associé à ce traitement. Ce fut le début d'une longue pratique, fort répandue jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle l'organothérapie. Celle-ci consistait à vendre et utiliser des extraits glandulaires pour lutter contre les maladies de l'appareil reproducteur et pour renforcer les attributs corporels de la masculinité, puissance sexuelle comprise. Dans les années 1920, les biochimistes, travaillant en étroite collaboration avec l'industrie pharmaceutique, isolèrent les hormones stéroïdes susceptibles de produire les effets tenus pour caractéristiques de la différenciation mâle ou femelle. Les œstrogènes dans l'ovaire, la progestérone dans les follicules mûrs, la testostérone dans les testicules. Soucieuse de diversifier ses sources d'approvisionnement, l'industrie poussa toutefois à rechercher si d'autres tissus, moins difficiles d'accès que les glandes, pourraient contenir ces mêmes molécules. Le résultat des nombreuses recherches fut d'élargir considérablement la palette du nombre de stéroïdes sexuels et d'identifier les réactions qui pouvaient régir leur synthèse dans l'organisme comme au sein de l'usine pharmaceutique. Ces nouvelles connaissances sur les hormones rendirent aussi plus difficile l'attribution du qualificatif mâle ou femelle à tel type de molécule et brouillèrent les frontières entre les définitions moléculaires du masculin et du féminin. Premièrement, et contrairement aux attentes de la théorie glandulaire, les hormones des deux types avaient des structures chimiques très proches et dérivées du même type de réaction, avec souvent la possibilité de convertir un composé à effet masculinisant en un composé à effet féminisant. De plus, les stéroïdes femelles furent retrouvés dans les organismes anatomiquement et physiologiquement mâles, en particulier dans les urines, et ce qui était vrai des corps masculins l'était aussi des corps féminins. Des hormones mâles étaient fabriquées dans d'autres tissus que l'ovaire. Les hormones sexuelles semblaient ainsi remplir bien d'autres fonctions que la seule différenciation des organes reproducteurs. La testostérone pouvait, par une simple réaction chimique, être transformée en œstrogène dans un sens ou dans l'autre. Enfin, toute une série de molécules présentait simultanément les deux effets masculinisants et féminisants. Cette confusion des molécules aurait pu conduire à une remise en cause, voire à l'abandon des qualificatifs sexuels pour désigner les stéroïdes. En pratique, les conséquences de l'ambiguïté des hormones furent limitées. Les deux sexes perdurent, et l'on s'accommode de la variété biochimique en admettant que le métabolisme des hormones sexuelles est le même dans les deux sexes, que la différenciation est un processus réversible, mais qui débouche sur une spécialisation des organes, et que cette différenciation se traduit chez l'adulte, celui qui est considéré comme normal, par des proportions diverses d'hormones, des différents types, et par une polarisation de leurs effets. La persistance d'hormones hermaphrodites étant donc jugée comme pathologique. Alors, on nous apprend à l'école que le sexe des humains, comme chez tous les mammifères, est déterminé par les gènes. Les mâles auraient un chromosome X et un chromosome Y. Et les femelles, deux chromosomes X, pas de chromosome Y. La simplicité des manuels scolaires est pourtant bien éloignée du monde clos des laboratoires. L'hypothèse de la responsabilité du chromosome Y dans la masculinité physiologique a été remise en cause, on l'a vu, par le fait que certains individus mâles soient révélés comme étant de caryotype XX et des individus femelles comme étant de caryotype XY. En 1979, l'attention des biologistes et généticiens se focalise sur la découverte du gène SRY
portée par le chromosome Y. Celui-ci serait prétendument responsable de l'apparition de cellules testiculaires, autrement dit, il masculiniserait un embryon qui, en son absence, resterait féminin. On présente par là même la masculinisation comme un processus actif, par opposition à une féminisation par défaut. Peu après, travaillant sur le cas d'individus ayant des chromosomes XY et une anatomie féminine, d'autres chercheurs annoncent la découverte du gène Z, localisé cette fois-ci sur le chromosome X et agissant en amont de SRY. Z serait le responsable du développement des organes reproducteurs en ovaire et utérus et serait inactivé par SRY lors de la formation des testicules, sauf si, ayant muté, Z devient insensible à l'action de SRY. À la fin des années 80, les chercheurs proposent encore un autre schéma, où cette fois-ci, la différenciation viendrait d'un nombre d'exemplaires d'un gène situé sur le chromosome X, le gène DAX. Aujourd'hui encore, ce débat est loin d'être clos, et la quête de l'inaccessible gène du sexe reste inachevée. Alors, pour conclure sur cette biologie du sexe, sexe hormonal, sexe chromosomique, la plupart des biologistes considèrent aujourd'hui que le sexe biologique n'est pas une structure figée, mais un état plus ou moins réversible dans l'histoire d'un organisme. Le sexe est le résultat de processus complexes qui impliquent de nombreuses interactions. Sexe chromosomique donc, sexe hormonal, sexe gonadique et sexe anatomique ne se recouvrent pas, ou seulement de façon parcellaire. La construction biologique du masculin et du féminin est loin d'être un phénomène de laboratoire isolé de la fabrique sociale du genre. Cette vision binaire des sexes, qui persiste certes au sein de la sphère scientifique, s'explique par le poids des représentations de genre dominantes, mais aussi par les pratiques médicales elles-mêmes qui y sont associées, notamment en ce qui concerne le contrôle de la reproduction ou l'assignation sexuelle des personnes intersexes.
Por ser mujer, llevaba pistola, ya sabe, para no sentirse sola. Ana... nadie le gusta que le jodan siempre. Tú tienes que pensar dos veces. ¿Quién se come la mierda cuando aparece? Si sale de allí es porque tiene suerte. Pa' otra vez tendré más cuidado, mamá. Iré con gente. Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar. Esta es la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz. Ella se decía que quería vender droga como su papá. Por ella nadie apostaba, su futuro se nublaba y no había hecho más que empezar. ¿Quién no quiere dinero? Dime quién no quiere dinero para gastarlo en la ciudad.
Vous êtes toujours à l'écoute de N des chaînes sur Radio Galère 88.4, une émission sur le genre. Et donc on en est arrivé au fait que la science a fini par invalider elle-même la théorie qu'elle tentait de mettre en place. Donc, vu que cette théorie de la différence des sexes est invalidée par la science elle-même, elle va avoir besoin de refonder cette différence sexuelle, voilà, et donc on va voir comment elle fait.
Alors oui, face à cette multiplicité des configurations sexuelles possibles, la norme de genre ne parvient pas à réduire cette configuration sexuée à une binarité essentielle. Elle n'arrive à la réduire en fait que parce qu'elle est en mesure d'opérer sur les corps de véritables mutations. Alors on l'a vu dans le cas des personnes intersexes, qui subissent de véritables mutilations, hein, ce qu'on appelle la clitérectomie est appelée ailleurs l'excision, par exemple. Mais ce n'est pas la seule mutation qui est opérée sur les corps pour accentuer leur différenciation sexuelle. Parmi les techniques qui servent à façonner les corps pour les faire correspondre aux normes de genre, les plus largement répandues dans les pays industrialisés sont les traitements hormonaux. Ceux-ci, en dépit de leurs usages contraceptifs, travaillent à maintenir en apparence une vraie nature féminine, avec ses caractéristiques physiologiques immédiatement reconnaissables, de même que les traitements à succès contre l'impuissance fabriquent et façonnent des corps d'hommes qui ont tous les signes typiques de la masculinité. Alors, la manipulation hormonale du masculin a surtout existé à travers l'utilisation de stéroïdes, comme pilules pour bien dormir ou pour ne pas être déprimé. Mais la testostérone a récemment été réhabilitée comme un moyen de lutter contre les symptômes du vieillissement et en particulier la perte de la puissance sexuelle. Alors, relativement à la pilule contraceptive, il est intéressant de rappeler qu'un tel traitement a pour fonction d'empêcher l'ovulation, et donc, par conséquent, il devrait supprimer les règles. Lorsqu'il n'y a pas de fécondation, soit qu'il n'y ait pas eu de rapport reproducteur, soit que la fécondation ait échoué, ou encore que l'œuf fécondé n'ait pas réussi à se nicher dans l'endomètre, c'est-à-dire dans la muqueuse qui tapisse l'utérus, l'endomètre se nécrose, chute et provoque des saignements, appelés règles. Or, sous pilule contraceptive, le corps médical prescrit généralement la prise quotidienne d'hormones pendant 21 jours et l'arrêt de la pilule pendant 8 jours, afin de provoquer des saignements qui ressemblent aux règles, mais qui ne sont pas des règles, puisqu'il n'y a pas d'ovulation. Dès l'origine des recherches sur les contraceptifs oraux, dans les années 1950, le fait de provoquer des règles a été une tactique adoptée en connaissance de cause par les concepteurs de la pilule, qui voulaient éviter une réaction trop négative des femmes et de l'Église. Entre 1952 et 1954, les premiers tests sont réalisés sur quelques femmes par John Rock, obstétricien de renommée de Harvard et fervent catholique. Gregory Pincus, le père de la pilule, préconise alors de réduire les doses de progestérone et de limiter la prise à 20 jours afin de provoquer des règles et de faire accepter le traitement comme une méthode contraceptive prétendument naturelle. Ainsi,
on maintient, à l'aide de techniques chimiques, une définition normative de la féminité, qui se caractérise par un corps empêché et réputé affaibli par des saignements menstruels, qui sont de fausses règles, mais qui n'est valable que pour certaines femmes. Dans ces conditions, on ne peut même plus vraiment parler de vraies ou de fausses règles, ni même de vraies femmes, dans la mesure où il n'existe pas d'identité sexuelle originale à reproduire ou à copier chimiquement. Dans le cas des implants hormonaux, ils n'utilisent en général pas d'œstrogènes et ont un effet inhibiteur de l'ovulation, au contraire des contraceptifs oraux. La plupart des implants hormonaux suppriment les règles ou les rendent très irrégulières. Ils provoquent assez souvent des saignements, mais qui sont des effets secondaires de l'action hormonale sur l'endomètre. Or, les implants hormonaux, s'ils tendent actuellement à se développer dans les pays riches et industrialisés, ont à l'origine été conçus pour les femmes des pays du Sud, dans le cadre de politiques de régulation des naissances qui puissent s'assurer de la fiabilité des moyens anticonceptionnels, notamment grâce au fait que les implants sont posés de façon relativement permanente, entre 3 et 5 ans, et que l'efficacité de leur action ne dépend pas des femmes, puisqu'elles ne peuvent pas arrêter le traitement, ni oublier de prendre leur hormone, qui se diffusera de toute façon. Dans ce cas, la suppression des règles n'a pas posé les mêmes problèmes que la pilule, testée sur et destinée aux femmes des pays riches. Tout se passe comme si le croisement des rapports de genre, de race et de classe modifiait considérablement les définitions normatives de la féminité et que dans le cas des femmes des pays pauvres, le maintien chimique des signes extérieurs de la féminité, en l'occurrence les règles, est bien moins important que l'efficacité des politiques de régulation des naissances.
La société ayant renoncé à me transformer, à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé, mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer. Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Au lit, mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme. Comme on en voit dans les muséums. Un Jules, un vrai, un bout en train. Toujours prêt, toujours gai. À mon procès, moi j'ai fait citer une foule de témoins, toutes les filles du coin qui me connaissaient bien. Quand le président m'a interrogé, j'ai prêté serment, j'ai pris ma plus belle voix et j'ai déclaré. Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Pour mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme. Pas besoin d'un référendum ni d'un expert pour constater qu'elles sont en nombre pair. En 70, il n'est pas question, ce serait du vice, de marcher tout nu sur les avenues. Mais c'est pour demain et un de ces jours, quand je chanterai aussi nu qu'un tambour, vous verrez bien que... Je suis un homme, je suis un homme. Et de là-haut sur mon podium, j'éblouirai le
l'état civil. Je suis un homme, et de là-haut sur mon podium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme, pour mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme, la la.
Y a-t-il besoin de préciser l'ironie de notre choix musical ?
Eh bien, j'espère pas.
Bon, alors en guise de conclusion, un court extrait. L'histoire de la fabrique médicale des corps sexués montre que les normes de genre président à un type d'intervention savante sur les corps. Des interventions scientifiques, et donc par là même incontestables, dont la finalité est littéralement l'incorporation du sexe biologique, mâle ou femelle. Les traitements hormonaux, tout comme les protocoles d'assignation ou de réassignation sexuelle, témoignent du maintien des deux corps sexués typiques et bien distincts. Jusqu'à l'introduction des techniques anticonceptuelles chimiques, on pouvait soutenir communément que la reproduction sexuée attestait sans conteste qu'il existe bien par nature deux sexes. Or, à partir du moment où la reproduction devient, pour une partie des femmes, un choix et non plus une tâche à laquelle elles sont inexorablement condamnées, les identités sexuées doivent être maintenues techniquement, naturalisées en l'absence même d'une norme naturelle. Le paradoxe réside dans le fait que c'est la recherche médicale qui a provoqué une crise des identités sexuées. En voulant les maintenir absolument, elle n'a fait qu'exhiber la technicité qui préside à la fabrication du sexe. Le corps sexué en soi n'est jamais accessible. Le corps, pris en dehors de la culture, appartient encore à la culture. C'est ainsi que l'on peut définir le sexe comme l'expression naturalisée d'un rapport de pouvoir, l'expression biologisée du genre. Il n'y a pas d'autre facteur que la domination des hommes sur les femmes qui puisse justifier la séparation de l'humanité en deux groupes distincts, hommes et femmes.
Alors du coup, ben voilà, c'est un peu une redite de ce qui vient d'être dit, mais du coup cette distinction homme-femme, cette constitution en deux groupes, elle est une construction sociale à laquelle on a essayé de donner un soubassement naturel qui est en train de se casser la gueule. Et une construction sociale, du coup, si elle est maintenue, c'est qu'elle sert à quelque chose. Et là, en l'occurrence, la division homme-femme, c'est la condition d'un système de domination, la condition de la domination masculine. Alors, bien sûr, il y a, hélas, de nombreux systèmes de domination, de hiérarchie des individus. Donc, il peut y avoir une hiérarchie en fonction de la classe, de la race, pauvre, riche, noir, blanc. Et bien sûr, ces systèmes de hiérarchie des individus, de hiérarchisation des individus, ils peuvent se superposer et s'imbriquer. Mais alors ici, on va du coup essayer de déceler la nature spécifique de l'oppression des femmes, quelle que soit leur classe ou leur race, et quelles que soient du coup les autres oppressions qu'elles peuvent subir, celles qu'elles subissent exclusivement en tant que femmes. Alors cette nature spécifique de l'oppression des femmes, c'est ce qu'essaye de déterminer Colette Guillaumin, qui est une sociologue et une auteure, et qui a écrit à ce propos il y a une quarantaine d'années. Alors, elle détermine la spécificité de l'oppression des femmes par,
elle l'a définie comme une appropriation de la classe des femmes par la classe des hommes. Cette appropriation, elle se joue sur deux plans, à la fois un plan matériel, concret, et à la fois un plan idéologique et symbolique. Le plan idéologique et symbolique, c'est-à-dire la construction d'une oppression et d'une hiérarchie par des outils symboliques et un discours et une idéologie, ça sera sûrement le sujet d'une autre émission. Alors, évidemment, on n'arrête pas de dire que ce sera le sujet, que plein de choses seront le sujet d'une autre émission, mais parce qu'on l'a dit au départ, le sujet est très très vaste. Et donc là, du coup, je vais juste essayer de voir, à partir du travail de Colette Guillaumin, quelle est la spécificité de cette appropriation de la classe des femmes par la classe des hommes, d'un point de vue concret, c'est-à-dire physique, temporel, tout ça. Alors, si on parle d'appropriation d'un être humain, c'est d'abord qu'on le considère comme une chose, c'est-à-dire qu'on en fait un objet et qu'on le réifie. On en fait un objet dans un rapport social et dans la pensée elle-même. Ici, on va chercher donc à partir des travaux de Colette Guillaumin, comment les femmes, à la fois en tant que groupe et à la fois chaque femme, est appropriée par les hommes en tant que groupe, mais à la fois aussi par chaque homme, par un homme. Bien sûr que on va le voir uniquement par rapport à un point de vue à peu près concret et matériel, et bien sûr que c'est pas suffisant. Parce que à chaque fois, comme cette domination, cette appropriation, elle se joue à la fois d'un point de vue matériel, concret, et d'un point de vue idéologique, il y a un aller-retour permanent entre l'idéologie et la matérialité. Et la pratique de la domination et le discours de domination, ils s'entrecroisent et ils s'entretiennent en permanence. Alors, Colette Guillaumin, elle part du principe qu'il y a une différence entre la domination que subit, par exemple, un prolétaire et celle que subit une femme. Et elle dit cette différence, elle est notamment basée sur le fait qu'il n'y a pas de mesure de l'accaparement de sa force de travail. C'est-à-dire que la domination subie par les femmes, elle est, pour Colette Guillaumin, plus proche de la domination que subit, par exemple, un esclave dominé par un maître ou un serf dominé par un seigneur. Parce que comme l'esclave et le serf, la femme, elle est appropriée sans qu'il y ait d'interruption de sa possession et sans qu'il y ait d'évaluation en termes d'argent, de temps ou de tâches de sa force de travail. Donc, elle est appropriée tout le temps et elle est appropriée sans qu'on mesure. Donc, ce n'est pas la force de travail qui est accaparée, puisque la force de travail, elle est mesurable, mais son origine, la machine à force de travail. Donc, comme dans l'esclavage ou le servage, c'est l'unité matérielle productrice de la force de travail qui est prise en main par le dominant, et non la seule force de travail. À partir du coup de ces ressemblances entre l'esclavage, le servage et la domination imposée aux femmes par les hommes, Colette Guillaumin, elle développe et définit la notion de sexage, qui serait donc le mode d'appropriation spécifique des femmes par les hommes. Cette appropriation, elle se joue donc à deux niveaux, mais je l'ai déjà dit au préalable. Elle se joue parce que les femmes sont appropriées collectivement en tant que groupe au sein de rapports sociaux généraux, et elles sont appropriées individuellement au sein des rapports familiaux. Donc le sexage, ça serait cette oppression spécifique subie par les femmes. Alors la première caractéristique du sexage, c'est une appropriation sans limite de temps. Comme on n'arrête jamais d'être un esclave, on n'arrête jamais d'être une femme. Et comme le sexe est présenté comme une identité première, une définition indépassable et première à toutes les autres, c'est quelque chose qu'on n'arrête jamais d'être. Les femmes dans les sociétés sont assignées à certaines fonctions, et comme en tant que femme, elles sont assignées à certaines fonctions, et qu'on n'arrête jamais d'être une femme, on n'arrête jamais dans le temps d'être assignée à une fonctionnalité de femme. Et en cela, il y a vraiment un rapport équivalent dans la domination maître-esclave. C'est-à-dire qu'on n'arrête jamais d'être un esclave comme on n'arrête jamais d'être une femme. Donc il est impossible pour une femme, dans le temps, d'enlever à un moment son bleu, sa blouse de femme. Il n'est donc pas possible d'être indisponible à un mari, à un oncle ou à quiconque aurait besoin de la machine à force de travail pour assurer les fonctions qu'on attend de nous en tant que femme. On demande aux femmes une disponibilité temporelle, permanente, comme à un esclave. La seconde spécificité de l'appropriation de la femme, de la classe des femmes par la classe des hommes, ça serait une appropriation des produits du corps de la femme. Alors là, Colette Guillaumin, elle prend l'exemple, donc en tant que produit du corps de la femme, elle prend l'exemple de la vente du lait ou des cheveux. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, la femme était dépossédée des produits de son corps, c'est-à-dire qu'on l'envoyait en tant que nourrice vendre son lait, donc elle devenait vraiment une espèce de productrice, mais au même terme qu'un animal. Et donc elle était dépossédée du coup des produits de son propre corps. Alors ici ça ne se fait plus, mais ça continue à se faire ailleurs, et on va essayer de ne pas faire comme si les questions étaient réglées une fois qu'on n'était plus visible ici. Ensuite, il y a un deuxième aspect de cette appropriation des produits du corps de la femme, c'est l'aspect de l'enfant. Parce que si l'enfant peut être considéré comme un produit du corps de la femme, on peut déceler dans les rapports hommes-femmes des signes de son appropriation par les hommes. Et donc, par exemple, le patronyme. L'enfant, il porte souvent le nom de famille d'un homme. Et le nom, c'est l'outil de reconnaissance sociale. Et du coup, c'est celui d'un homme qui marque en quelque sorte sa propriété ainsi sur le produit du corps de la femme que serait l'enfant. Colette Guillaumin revient aussi là-dessus en disant qu'en cas de rupture ou de désaccord conjugal, hors mariage ou en mariage, c'est pareil, c'est souvent par rapport à l'enfant toujours, c'est souvent la possession de l'enfant qui est revendiquée par l'homme et non sa charge matérielle que l'homme confie souvent à une autre femme, que ça soit du coup une mère, une sœur, une grand-mère, une nourrice, une belle-mère. Voilà du coup pour ce qui est de l'appropriation des produits du corps de la femme rapidement. La troisième spécificité de la domination, enfin en tout cas de l'appropriation des femmes par les hommes, ça serait, alors là je vais faire ça en 30 secondes alors que ça mériterait une émission entière, mais qui serait le rapport d'obligation sexuelle et de disponibilité sexuelle de la femme pour les hommes. Donc dans ce rapport spécifique de domination, les hommes ont un droit d'usage sexuel sur les femmes. Alors ce droit d'usage, il est implicite parfois, explicite parfois, contractualisé parfois, sous forme par exemple du devoir conjugal ou pas, des fois il est complètement tacite. Il peut être exigé de manière violente ou enrobé de jolis mots, de toute façon il est question d'un droit d'usage sexuel. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que dans nos sociétés occidentales, il est de plus en plus ce droit d'usage sexuel des femmes par les hommes, de plus en plus limité par les lois qui viennent régir la vie privée, mais comme implicitement il est encouragé par des discours qui sexualisent le corps des femmes et qui font du corps des femmes des objets sexuels, finalement cette domination, cette obligation sexuelle, elle reste tout à fait d'actualité. Alors ce droit d'usage, il prend deux formes. Une forme contractuelle non monétaire dans le mariage, le concubinage, et une forme directement monnayée, la prostitution. Dans le cas de la prostitution, la vente, le rapport à l'argent, limite l'usage du corps de la femme à un usage sexuel. Et dans le cas du mariage et du concubinage, cet usage, ce droit d'usage du corps de la femme par l'homme, n'est pas uniquement sexuel, et du coup il s'étend à bien d'autres domaines. Thank you. l'obligation sexuelle, quelle que soit sa forme, rappelle la validité d'un slogan simple du féminisme, « Mon corps m'appartient ». Alors ensuite, voilà pour la quatrième spécificité de ce rapport de domination entre les hommes et les femmes. Ce que Colette Guillemin développe, c'est que quelque chose qui peut s'approprier, c'est un objet. Et donc, un objet, ça sert. Donc, les femmes dans ce rapport de sexage, elles sont donc implicitement réduites à l'état d'outil, et un outil qui sert à d'autres êtres humains. Et donc, la dernière spécificité de ce type de domination, c'est l'attribution aux femmes, en tant que groupe, et à la femme, en tant qu'individu, de la charge physique du membre des groupes. L'approprié, est attaché sans limite de temps au service matériel du corps des dominants et des corps qui appartiennent ou dépendent de ce dominant. Alors cet attachement matériel au corps donc des dominants et des appropriés du dominant, des fois elle se joue comme un service matériel rémunéré, donc ça va être toutes les fonctions salariales qui sont de l'ordre du soin ou de l'entretien, donc soins médicaux, ménage, tutti quanti, cuisine, tutti quanti. Mais le plus souvent, ce service matériel et la charge physique des membres du groupe revient aux femmes hors du circuit du salariat. Donc, cette charge physique des membres du groupe, les femmes, elles l'ont tout le temps. Il se joue à tout moment. Donc, elles ont implicitement l'obligation, les femmes, de devoir tout laisser en plan à n'importe quel moment, s'il y a un cassage de jambes, s'il y a une fin subite, s'il y a un retard, s'il y a un départ. Donc ça revient à la première appropriation, c'est-à-dire l'appropriation du temps. Et cet entretien, il s'applique, cet entretien matériel des individus, du coup, il s'applique dans le soin du corps lui-même. C'est-à-dire que c'est à la femme que revient de changer les enfants et les vieux, de mettre les pansements, de laver le linge, et les femmes sont l'outil social affecté à cela. Alors du coup, pour un petit peu résumer, la spécificité de l'oppression subie par les femmes d'un point de vue matériel et concret, elle se joue donc, selon Colette Guillemin, et ça serait peut-être à enrichir et à développer, elle se joue en tout cas à quatre niveaux. Une appropriation du temps, une appropriation des produits du corps, une obligation sexuelle et une charge physique des membres invalides du groupe, ainsi que des membres valides de sexe mâle. Le rapport La jumélité avec l'esclavage, moi je le trouve très intéressant parce qu'il permet de faire apparaître la violence de la domination masculine, puisque dans l'imaginaire collectif, on a bien intégré que l'esclavage, c'était quelque chose de violent. Donc, utiliser et inventer ce mot de sexage, je trouve ça assez pertinent. Ensuite, ce que je trouve intéressant dans cette notion de sexage, toujours dans ce qu'elle a de lié à l'esclavage, c'est que ces deux systèmes de domination, l'esclavage et le sexage, ils ont tenté d'être, à un moment, où ils continuent à l'être, fondés sur l'idée d'une nature. Et donc l'idée d'une nature, elle entretient le mythe de l'indépassibilité d'un rapport de domination. Tant que les choses sont naturelles, elles ne peuvent pas être autrement. Elles sont liées à une nécessité. Voilà. Alors je trouve qu'il est assez navrant qu'il y ait besoin d'invalider biologiquement une distinction, une séparation, pour supprimer une domination. Mais il est certain que depuis que l'invalidation des différences biologiques, par exemple entre les blancs et les noirs, a aidé à déconstruire la légitimité du rapport maître-esclave. Donc, sûrement que les dernières avancées scientifiques qui invalident la distinction homme-femme aideront à déconstruire et à abattre la domination masculine. Mais cela passera aussi et nécessairement par l'analyse et l'invalidation des discours idéologiques qui font de la femme la propriété de l'homme.
Les filles, c'est beau comme un jeu, c'est beau comme un feu, c'est beaucoup trop peu. Les filles, c'est beau comme un fruit, c'est beau comme la nuit, c'est beaucoup d'ennui. Les filles, c'est beau comme un renard, c'est beau comme un retard, c'est beaucoup trop tard. Les filles, c'est beau tant que ça peut, c'est beau comme l'adieu, c'est beaucoup mieux. Mais les chiens, c'est beau comme des chiens,
et ça reste là, à nous voir pleurer. Les chiens, ça ne nous dit rien, c'est peut-être pour ça qu'on croit les aimer. Les filles, ça vous pend au nez, ça vous prend au thé, ça vous prend les dés. Les filles, ça vous pend au cou, ça vous pend au clou, ça dépend de vous. Les filles, ça vous pend au cœur, ça se pend aux fleurs, ça dépend des heures. Les filles, ça dépend de tout, ça dépend surtout, ça dépend des sous. Mais les chiens, ça ne dépend de rien, et ça reste là à nous voir pleurer. Les chiens, ça ne nous dit rien, c'est peut-être pour ça qu'on croit les aimer. Les filles, ça joue au cerceau, ça joue du cerveau, ça se joue tango. Les filles, ça joue l'amadou, ça joue contre joue, ça se joue de vous. Les filles, ça joue à jouer, ça joue à aimer, ça joue pour gagner. Les filles, qu'elles jouent les petites femmes, qu'elles jouent les grandes dames, ça se joue en drame. Mais les chiens, ça ne joue à rien, parce que ça ne sait pas comment faut tricher. Les chiens, ça ne joue à rien, c'est peut-être pour ça qu'on croit les aimer. Les filles, ça donne à rêver, ça donne à penser, ça vous donne congé. Les filles, ça se donne pourtant, ça se donne un temps, ça donne en donnant. Les filles, ça donne de l'amour, à chacun son tour, ça donne sur la cour. Les filles, ça vous donne son corps, ça se donne si fort, que ça donne des remords. Mais les chiens, ça ne vous donne rien, parce que ça ne sait pas faire semblant de donner. Les chiens, ça ne vous donne rien, c'est peut-être pour ça qu'on doit les aimer. Et c'est pourtant pour les filles qu'au moindre matin, qu'au moindre chagrin, on renie ses chiens.
Ils nous ont dit, c'est comme ça parce que c'est comme ça. La nature ne vous a pas gâté. Quand le partage s'est fait, vous avez hérité à la fois de l'impuissance et de l'incompétence.
De constitution fragile, vous manquez de force pour accomplir certaines tâches. Ce manque se double d'une incapacité à manier les outils. Et les outils, c'est vaste. Ça va des outils de la production aux outils du langage. Et d'abord et surtout, les outils, c'est ceux de la pensée.
Vous, les femmes, vous pensez avec vos émotions. Et même cet outil que vous possédez, votre corps, ils nous ont dit, vous ne savez pas vous en servir.
Nous, on a fini par les croire.
Et puis ils nous ont dit, la nature est bien faite, nous sommes complémentaires. Vous n'avez rien, mais ce n'est rien, puisque nous avons tout.
Car pour votre impuissance, nous avons le pouvoir, et pour votre incompétence, nous avons le savoir. Restez donc avec nous, et nous nous occuperons de tout.
Mais cet outil que vous possédez, votre corps. Ils nous ont dit, nous allons vous apprendre à vous en servir.
Et nous, on a fini par les croire.
Enfin, ils nous ont dit, maintenant, nous sommes alliés. Nous formons une équipe. Nous serons capitaine et vous, vous nous seconderez. C'est un rôle qui vous va très bien.
Car la nature, dans sa grande mansuétude, a bien dû vous doter de quelques qualités. Que savez-vous faire? Rien? Eh bien, vous enfanterez.
Vous, les femmes, qui pensez avec vos émotions, investissez-les donc dans quelque chose d'utile. Vous veillerez sur nous, et sur nos progénitures, et sur notre maison, et sur notre confort.
Nous formons une équipe. Alors, cet outil que vous possédez, votre corps, mettez-le en commun. Donnez-le nous, et nous en prendrons soin.
C'est à ce moment, peut-être, que nous avons commencé à douter. C'est à ce moment peut-être que nous avons commencé à lutter.
Avez-vous avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, s'émincer le ventre, se gratter les tifs et regarder ses pieds l'air pensif? Vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez pucelle chez votre papa, devenez serveuse chez un bougna, élevez des singes, élevez des chats, levez la patte à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat, prenez le voile, vous le prenez pas, dansez à poil pour les gagas, soyez radeuse, avenue du bois, mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Un homme gêné rentré trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant sur la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils nous torturent. Avez-vous vu à votre bras ce maigrichon à face de rat, friser ses trois poils de moustache et se redresser l'air bravache? Vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant quatre fois par mois, prenez la braise et gardez-la, cachez la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer de bons petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. Ah, la belle vie que ça sera. Si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas, si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas.
Et vous êtes toujours sur une des chaînes. Du coup, en guise de conclusion, de rebond, je vais vous reparler de cette histoire de différence naturelle entre les sexes. Et je pense qu'on peut la présenter comme une forme de dissimulation. Cette idée-là, d'une différence naturelle, elle permet de masquer l'opposition qui existe sur un plan social entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que ce que ça permet de masquer, c'est l'existence d'un ordre économique, politique, idéologique, qui est hiérarchisé. Et cette construction hiérarchisée, elle affecte absolument tout, nos pensées, nos gestes, nos actes, notre travail, nos sensations, nos relations, tout. Alors comment ça fonctionne ? Eh ben, comme tous les systèmes de domination, ça crée des divisions. Alors, on l'a un peu dit déjà, ces divisions, elles vont être expliquées d'un côté par les maîtres comme le résultat de différences naturelles, alors que les esclaves, quand ils se révoltent, ils verront plutôt des oppositions sociales. Et alors, tant que les différences ont l'air d'être déjà là, d'être naturelles, bah, il n'y a pas trop de mouvements possibles. C'est seulement quand le caractère politique de ces différences est rendu visible, c'est-à-dire quand on admet qu'elles sont construites et entretenues socialement, qu'on peut agir dessus. Ce qui n'est pas si facile parce que la plupart du temps, les groupes opprimés n'ont qu'une perception partielle de l'oppression qu'ils subissent. Et ça, c'est vrai aussi pour le groupe opprimé des femmes dont nous faisons partie. Nous ne savons pas toujours que nous sommes totalement dominés par les hommes. Et quand, en dernier recours, on finit par l'admettre, on refuse souvent de croire que les hommes nous dominent en connaissance de cause. Donc là, je cite Monique Wittig, mais je me reconnais assez dans cette analyse-là, de pas pouvoir se dire, mais quand même, mais ils font exprès en plus. Voilà. Et elle ajoute que les hommes, quant à eux, le savent assez bien et s'en accommodent tout à fait. Cette remise en question de l'oppression, elle est difficile parce que la puissance dominante, c'est pas seulement une puissance matérielle, mais c'est aussi une puissance spirituelle. Au sens où il y a une classe, donc les dominants, les hommes, qui possèdent les outils aussi bien matériels qu'intellectuels, et qui vont donc pouvoir imposer une pensée au reste du monde. La catégorie de sexe, donc cette différence entre hommes et femmes, c'est une catégorie totalitaire qui contrôle toute la production mentale, et qui possède pour prouver son existence ses inquisitions, ses tribunaux, son ensemble de lois, ses terreurs, ses tortures, ses exécutions, sa police. Donc, comme à peu près tout ce qui est totalitaire, c'est difficile de penser en dehors de cette catégorie. La solution, la seule peut-être, c'est donc de la détruire pour commencer à penser au-delà d'elle. Sauf que détruire cette catégorie de sexe, c'est aussi détruire ce que nous avons intériorisé d'elle, puisqu'elle est assez bien ancrée, comme on a pu le montrer au cours de cette émission, entre autres. Je vais citer un petit coup Audre Lorde à ce propos-là, sur l'intériorisation. Elle dit « Pour provoquer un véritable effort révolutionnaire, nous ne devons jamais nous intéresser exclusivement aux situations d'oppression dont nous cherchons à nous libérer. Nous devons nous concentrer sur cette partie de l'oppresseur enfouie au plus profond de chacune de nous et qui ne connaît que les tactiques des oppresseurs et les modes de relation des oppresseurs. » Voilà, donc ça, ça pourrait être amplement développé aussi, et puis on n'aura peut-être pas le temps, et puis bon, on a encore à bosser pour pouvoir le faire. Mais voilà, ça pourrait notamment s'articuler à la question de la reconnaissance sociale et à comment les membres d'une société sont reconnus ou non par cette société, et donc comment la reconnaissance sociale, c'est un endroit de pouvoir de la société sur ses membres. Avec toute la variation de ce qui est reconnu, notamment comme masculin ou comme féminin, d'une société à l'autre. Voilà, et que donc, ben, par exemple, si je ne suis pas considérée comme une vraie femme parce que je parle mal, ou parce que je parle trop, ou parce que je ne souris pas assez, eh ben, ça va créer à un moment des difficultés dans la vie quotidienne. Donc cette question-là, ben, ce que ça provoque, c'est une intériorisation de ce qu'il faut que je fasse pour être une vraie femme. Voilà. Du coup, ce qu'on peut dire un peu en conclusion, c'est que la grosse difficulté d'arriver à tenir une position subversive sur cette question-là, c'est d'arriver à maintenir une relation critique et transformative avec des normes qui nous constituent nous-mêmes. Voilà, on est fait d'un monde qui est normatif, et ben, du coup, comment faire pour être dans la critique de choses qui sont ce qu'on est aussi. Voilà. Et ben, sur ce, musique. Ils
sont bonnes qu'à la cuisine et à pondre. Ils sont pas faites pour le rabat.
L'intolérance, c'est une forme de contrôle. Refuser la différence, c'est censurer et jouer le rôle du censeur. Et là, je m'adresse pas aux politiques et ceux qu'on a tendance à montrer du doigt. Je voudrais pas foutre la merde entre toi et moi. Mais si tu m'acceptes pas mieux que ça, je pense qu'on s'entendra pas. Tu trouves ça normal, toi, de refuser le droit d'un freestyle? T'appelles pas ça de la censure, toi? Je l'ai senti comme du racisme, en fait. Comme quand tu jettes un Africain d'une discothèque. Du sexisme sur scène hip-hop en direct par des mecs qui disent être censurés. On s'organise tous pour les mêmes engagements, je veux bien, mais qu'on arrête de mettre en avant les mêmes histoires de censure, putain ça sert à rien. Comme ma mère qui me dit que le rap c'est pas féminin.
On dit de moi que j'ai la grande gueule, alors je l'ouvre, découvre les dossiers classés top secret. Et en quelques minutes, je mets l'état dans tous ces états, histoire de voir si je peux user de mes droits sans me faire. Si j'ai par l'extrême droite, je le suis, avec mon troupe, on connaît si public suit. Sinon je risque de perdre pied, merde, on veut pas le faire un peu de billets, nous aussi est gravé. Nous n'avons quatre coins de France et ça les gêne. Quand je parle de rien, ça gêne pas. Mais quand ils nous censurent, putain, ça j'aime pas. Depuis que je suis devenu une menace, faut dire qu'ils m'aiment pas.
Moi, on sait, mais c'est pour eux qu'ils veulent cacher. Les malheureux, ils savent pas qu'à ce que je sais. Comme la roulette russe, c'est dangereux. Meuf, y'a contre la censure que pour le censure. Moi, on sait, mais c'est pour eux qu'ils veulent cacher. Les malheureux, ils savent pas qu'à ce que je sais. Comme la roulette russe, c'est dangereux. Meuf, y'a contre la censure que pour le censure. Moi, on sait. Et mieux c'est, et si on décidait de bouger, de s'organiser, peut-être que, je sais pas, mais
en tout cas,
on pourrait se former à s'entraider,
ouais.
Enfin, c'est utopique de croire qu'on puisse dire et écrire ce qu'ils veulent nous cacher. Merde, je crache et je dis, évite d'en dire trop, tu sais qu'on emprisonne les grandes gueules, ceux qui mettent en évidence le vrai du faux, journaliste des ghettos, je dois te dire ce qui va pas.
Ce qui va pas, c'est qu'on a souvent tendance à faire parler trop fort nos cœurs, dire ce qu'on pense, c'est nous. C'est nos vies qu'on met en évidence et qu'on écrit.
Franchement, même s'ils volaient ma liberté, tu crois franchement qu'ils peuvent la censurer? Ma conscience, ma raison comme mon ego, même ligoter pour y accéder, pour se
béton, n'attendez pas de moi que j'ouvre la voie. Que je vous laisse impunément me censurer comme ça, écoute-moi. Je me fous de toi et de ceux qui t'entourent. Je dirai ce que je veux, quand je veux et où je veux. Moi on en sait, mais c'est pour eux ce qu'ils veulent cacher. Les malheureux ils savent pas qu'à ce jeu c'est comme la roulette russe, c'est dangereux. Me plaque contre la censure que pour le censure. Moi on en sait, mais c'est pour eux ce qu'ils veulent cacher. Les malheureux ils savent pas qu'à ce jeu c'est comme la roulette russe, c'est dangereux. Me plaque contre la censure que pour le censure. La censure c'est quoi? C'est ce qui se passe entre toi et moi. Écoute bébé, t'es une censure, un censeur. Laisse-moi dire ce que je veux et faire ce que j'ai à faire. Lâche l'ascenseur et fais en sorte qu'il tombe sous le censeur. Mais oups, je deviens censurable et là, je sens les sœurs qui m'écoutent. Alors évite de parler de couilles ou de bite à l'antenne. Ça, ça les gêne. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'on sait que tout ça, c'est ce qu'on aime. On consomme les mots comme des M&M's. Et sur beat posé, je me mets à causer de façon désinvolte comme Eminem. Puis ça, tous les frères et sœurs qui m'aiment et à tous ceux qui gênent, enfin. Tu vois ce que je veux dire, oh fuck man. Fuck qui tu veux, moi je mène à ma façon les miennes. Et si ça plaît pas, faut pas qu'on dise qu'elles jouent les belles. Ils veulent diriger nos pensées, nous colmater à leur façon. Et c'est trop facile vouloir effacer des éléments gênants, ceux qui montent du doigt. Des institutions, l'État, des administrations qui jouent à cache-cache avec le peuple. Dissimuler des informations, c'est stimuler notre envie de savoir. Raison de plus pour véhiculer. Qu'ignorer, c'est tendre une arme à ceux qui veulent nous dominer. Nous qui parlons trop, qui cherchent trop le vrai du faux. En somme, des parasites à leur égard, nous sommes.
Moi on en sait, mais c'est pour eux ce qu'ils veulent cacher. Les malheureux, ils savent pas qu'à ce jeu c'est comme la roulette russe, c'est dangereux. Me plaît à compte la censure que tout le sens sur eux. Moi on en sait, mais c'est pour eux ce qu'ils veulent cacher. Les malheureux, ils savent pas qu'à ce jeu c'est comme la roulette russe, c'est dangereux. Me plaît à compte la censure que tout le sens sur eux. Moi on en sait, mais c'est pour eux ce qu'ils veulent cacher. Les malheureux, ils savent pas qu'à ce jeu c'est comme la roulette russe, c'est dangereux. Me plaît à compte la censure que tout le sens sur eux. Moi on en sait, mais c'est pour eux ce qu'ils veulent cacher. Les malheureux, ils savent pas qu'à ce jeu c'est comme la roulette russe, c'est dangereux. Me plaît à compte la censure que coule le sang sur eux.
Il y a un moment où il faut sortir les couteaux. C'est juste un fait, purement technique.
Il est hors de question que l'oppresseur aille comprendre de lui-même qu'il opprime, puisque ça ne le fait pas souffrir. Mettez-vous à sa place, ce n'est pas son chemin. Le lui expliquer est sans utilité.
L'oppresseur n'entend pas ce que dit son opprimé comme un langage, mais comme un bruit. C'est dans la définition de l'oppression. En particulier, les plaintes de l'opprimé sont sans effet, car naturelles.
Pour l'oppresseur, il n'y a pas d'oppression, forcément, mais un fait de nature.
Aussi est-il vain de se poser comme victime. On ne fait par là qu'entériner un fait de nature, que s'inscrire dans le décor planté par l'oppresseur. L'oppresseur, qui fait le louable effort d'écouter, libéral intellectuel, n'entend pas mieux. Car même lorsque les mots sont communs, les connotations sont radicalement différentes. C'est ainsi que de nombreux mots ont pour l'oppresseur une connotation jouissance et pour l'opprimé une connotation souffrance ou divertissement corvée ou loisir, travail, etc.
Allez donc causer sur ces bases. C'est ainsi que la générale réaction de l'oppresseur qui a écouté son opprimé est en gros. Mais de quoi diable se plaint-il ? Tout ça c'est épatant. Au niveau de l'explication, c'est tout à fait sans espoir. Quand l'opprimé se rend compte de ça, il sort les couteaux. Là, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pas avant. Le couteau est la seule façon de se définir comme opprimé, la seule communication audible.
Peu importe le caractère, la personnalité, les mobiles actuels de l'opprimé, c'est le premier pas réel hors du cercle. C'est nécessaire.
Et donc c'est une définition de l'opprimé parue de Christiane Rochefort en 1971.
Voilà, elle est parue en avant-propos de la traduction française du School Manifesto de Valérie Solanas.
À la semaine prochaine.
Ouais. À la semaine prochaine.